TechKids News.
Et salut salut, on se retrouve pour un nouveau TechKids News. Celui-ci est le troisième d'une série de 4 émissions consacrées au Festival des Déferlantes 2018. La Fédération départementale des foyers ruraux et TechKids était présent. On vous raconte tout de nos journées d'animation et d'interview. Sans plus attendre, voici le troisième jour des Déferlantes.
De retour au parc Valmy, les Déferlantes Sud de France vous accueillent à Argelès, juste au pied du château, le célèbre château de Valmy. Le soleil est tombé et pendant ce temps, The Una sont en train d'enflammer le parc tout entier. Je suis avec Alex. Bonjour Alex.
Salut, comment ça va Julio ?
Eh bien ça va très bien, la fatigue commence à se faire ressentir mais ce n'est que du bonheur. Je suis aussi avec Thibaut.
Et oui famille.
Et oui, famille, comment tu vas Thibaut ?
Super bien.
Ouais. Ça va bien ?
Ouais.
Fort bien, je suis aussi avec deux bénévoles des Déferlantes. Eh bien, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Ça va être sympa.
Bonjour, moi je m'appelle Amélie et je suis bénévole aux Déferlantes. Et je suis avec Beryl aussi.
Qui refuse de parler parce qu'elle est timide. C'est dommage Beryl.
Oui, surtout qu'elle a une jolie voix.
Et alors, de quoi vous vous occupez ?
Nous, on s'occupe... plus des tickets, enfin pas des tickets directement, en fait il y a des gens qui ont préchargé des cartes avec de l'argent pour payer des boissons et tout ça, et on s'occupe de leur donner la carte en fait, parce qu'ils n'ont pas de carte, et on bip les tickets, après on le met sur la carte, après on leur donne la carte.
Fort bien, c'est un métier très important, et bien merci d'assurer ce
oui.
rôle.
De rien.
De manière bénévole. On a aussi deux autres bénévoles, on a aussi les news du maquillage. Comment ça s'est passé aujourd'hui la famille ?
Eh bien, ça s'est bien passé.
Un beau match.
Un beau match, voilà, très serré. Non, il y a eu beaucoup de queues et on a fait pas mal de maquillage un peu.
C'est vrai que la queue était immense vers 6h, 7h. C'était formidable.
Ouais, ouais, mais c'était sympa.
Et alors, oui, vous avez eu une nouvelle main aujourd'hui ?
Ouais, ouais, on a eu Clément avec nous et il s'est bien débrouillé. Il
qui
nous
est,
a fait des dragons.
Non négligeable, oui. De poids.
Ouais, ouais, ouais.
Et alors, moi j'ai un gros tatouage aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de... Vous pouvez pas le voir, vous qui nous écoutez, je me suis peint carrément tout le bras en blanc et j'ai mis Perpizou avec un petit palmier en noir, un hommage à Hassan Monkey qui est passé dans notre studio. Hassan Monkey qu'on va écouter tout de suite en interview sur TechKids Radio. Il fait chaud toujours cet après-midi au parc de Valmy pour les Déferlantes Sud de France. Bienvenue à Argelès et bienvenue à toi Hassan.
Yes.
Comment ça va ?
Ça va très très bien.
Merci beaucoup de venir à l'antenne de TechKids Radio. Merci beaucoup d'accepter cette interview. Alors comment tu te sens dans cet après-midi ensoleillé ?
Il fait super chaud, je crois que j'ai perdu la moitié de mon corps là entre ce matin et maintenant. Sinon ça va, ça se passe. Hein.
Et alors ce soir comment tu le sens ?
Ah, je le sens archi bien, on a un super accueil ici, c'est un bête de festival, les gens sont tous souriants, on a l'impression qu'ils n'ont pas de problème, donc c'est cool. Non, ça se passe super bien, on est bien accueillis, on a la gouache, on est super chaud, aucun d'entre nous n'est malade, donc c'est cool. On va essayer de faire le taf.
Ce soir, c'est la scène mère.
Yes.
Et c'est à quelle heure ?
Je crois que c'est 17h30, je crois, un truc comme ça.
17h30, le rendez-vous est lancé. La famille, n'hésitez pas à venir voir Hassan sur la scène mère, ça risque de péter. Je laisse la parole à Valentine pour l'interview, elle va le faire très très bien, j'en suis sûre.
Merci. Alors salut Hassan,
salut.
J'ai quelques questions du coup pour toi.
Yes.
Je voulais savoir si tu pouvais te présenter pour les certaines personnes qui peut-être ne te connaissent pas.
Oh, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui me connaissent pas. alors moi c'est Hassan, en fait je suis originaire de Perpignan, où j'ai commencé le rap étant très jeune. J'avais 11 ans quand j'ai commencé et voilà, tu démarres toujours au quartier avec des potos à t'amuser parce que ça fait bien devant les filles de dire je fais du rap. Et au final, tu commences à en faire un sport pratiquement et ça devient ton métier sans que tu t'en rendes compte. Mm-hmm. C'est un peu ça. Et voilà quoi, donc j'officie à la Casa depuis un moment, à Casa Musicale que certaines personnes à Perpignan doivent connaître. Et voilà quoi, on mène notre petit bonhomme de chemin. L'album qui est sorti il y a maintenant 2 ans bientôt, un an et demi. Qui s'est vendu modestement, mais qui s'est vendu, on a écoulé nos stocks, donc c'est cool. Et voilà quoi, ça se passe.
D'accord, super. Et donc, comme tu as dit, tu travailles à la Casa.
Yes.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu fais exactement là-bas ?
Alors, sur la Casa Musicale, en fait, depuis un an, en fait, j'ai été recruté comme chargé de tout ce qui est pôle urbain. qui touche de près ou de loin à la culture hip-hop, en fait, pour parler crûment, avec le rap, la danse, le graffiti, le human beatbox et j'en oublie peut-être, le DJing. Et en fait, voilà, donc l'idée, c'est de donner, je dirais, confiance aux jeunes qui souhaitent se développer là-dedans et de les aider, et surtout de donner la chance à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se développer et d'aller plus loin et peut-être un jour réussir à en vivre et d'en faire un métier, quoi. Et on est dans la professionnalisation et dans l'accompagnement surtout de ces jeunes-là. Alors on a un public quartier à la base, si tu veux, mais c'est vrai que c'est un lieu qui est totalement ouvert sur l'extérieur, et que c'est aussi le carrefour, voilà, de rencontres de gens qui peuvent venir autant d'un quartier que de quartiers un peu plus résidentiels, de gens qui ont pas de taf, galèrent un peu plus, et d'autres qui ont une situation, je dirais, professionnelle beaucoup plus cool. Et c'est vrai que voilà, c'est un peu le melting pot de personnes qui sont très différentes mais qui vont dans le même sens.
D'accord. On pense notamment à la Ken Flush,
yes, hein,
c'est avec l'équipe à Kiou, ouais, que vous pouvez retrouver en podcast sur techitradio.fr.
Yes.
Voilà.
C'est la femme.
Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est exactement Perpizou?
Perpizou, en fait, si tu veux, c'est un délire, un Némir. En fait, par le passé, moi, je faisais partie du même groupe que Némir, en fait. On a plus ou moins évolué ensemble. On a une relation très fraternelle, en fait. C'est vraiment famille de chez famille. On a grandi ensemble, on a le même âge. Enfin bref, j'ai 33 ans. C'est le seul gars que je connais depuis 33 ans. Et si tu veux, voilà. Donc, il avait jeté à un moment donné un espèce de délire autour de Perpizou. Et ça s'est fait naturellement. Les gens ont repris ça à travers toute la France, en fait, si tu veux.
Ouais.
Et c'est connu, tu vois, à Paname, tu dis Perpizou, ils identifient plus ça que Perpignan, en fait, tu vois. Et c'est une identité, je dirais, culturelle, territoriale, et c'est une couleur bien définie, c'est de la musique ensoleillée, c'est un rap qui est plutôt positif, c'est, tu vois, et on est dans ces bails-là, quoi.
D'accord, mais voilà. Pourquoi Perpizou ?
C'est assez complexe à définir, il y a beaucoup de... Moi, j'ai ma définition à moi, si tu veux, mais c'est pas forcément la plus vraie, mais c'est celle que j'avance le plus souvent, c'est que dans Perpizou, t'as Zo. Et dans le zoo, en fait, si tu veux, t'as différents... Moi, j'ai toujours défini les gens comme... Enfin, fait le rapport entre les gens et les animaux. C'est-à-dire que tu le veuilles ou pas, on a des similitudes avec certains animaux. Et t'as des gens que, tu vois, tu vas les regarder, tu vas te dire, tiens, on dirait un lémurien dans son attitude. Tu vas regarder l'autre, tu te dis, putain, lui, il casse des vaisselles dans un magasin de porcelaine. Lui, c'est un éléphant, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Ce bail-là, tu sais. C'est un peu de là que vient le Hassan Monkey, parce qu'on m'a toujours comparé à un gorille. Donc c'est un peu le délire, tu vois. C'est une des explications de mon blaze aussi, par exemple, tu vois.
Ouais,
donc c'est vrai que voilà, Perpizou, c'est surtout le fait de montrer que voilà, c'est un zoo humain, en fait, si tu veux, mais dans le bon sens du terme, parce que c'est quelque chose qu'on a toujours utilisé de manière un peu péjorative. Mais nous, on se l'est approprié pour lui donner un sens beaucoup plus cool, beaucoup plus plus, tu vois.
Ouais.
Et c'est ça l'idée, quoi. Et voilà, donc Perpizou en est qui veut et qui défend notre musique. On n'est pas obligé d'être rappeur, on n'est pas obligé d'être graffeur, on n'est pas obligé de faire quelque chose. Mais la personne qui vient et qui est devant le concert et qui est là, qui crie, qui saute dans tous les sens pour nous et qui supporte le truc, c'est Perpizou aussi, quoi. C'est une grande famille, quoi.
D'accord, ok. Je voulais savoir si tu connaissais les autres musiciens et groupes qui jouaient aujourd'hui au Déferlante.
Alors, je t'avoue qu'aujourd'hui on est arrivé un petit peu à la course. Je sais qu'hier il y avait Supamoon qui jouait.
Yes.
Voilà, bon, après, si tu veux, moi je suis très restreint au cercle proche, tu sais.
Ouais.
Il se passe tellement de choses qu'on a. Alors, c'est peut-être à tort, tu vois, qu'on sait pas forcément, mais on m'a dit qu'il y avait un groupe de ouf qui jouait juste avant nous. Donc, on va essayer de, si la promo le permet, de checker ça et de voir ce qui se passe, parce que c'est vrai qu'on est très curieux et on est souvent dans la fosse. Là, on me le souffle, là, c'est Bags. Donc, je connaissais pas du tout. Je connais pas du tout. Bah, il faut leur faire un big up de ma part. Hein. On va essayer d'écouter ça et de se mettre au parfum. Hein. De toute façon, on n'est jamais. On est toujours trop ignorant. Donc, pour le coup, je suis un peu fautif. Mais on va essayer d'écouter ça, ouais, avec les deux oreilles.
D'accord. Et donc, j'ai une dernière question.
Ouais.
Je voulais savoir si tu pouvais nous expliquer ton actu, si tu avais des dates prévues, des
Alors,
projets.
Ce qui se passe, oui, on a des dates de prévues. Je sais que jusqu'au 6 octobre, on a des dates. Là, on a le 6 octobre, c'est celle qu'on m'a annoncée dernièrement. On joue un truc qui s'appelle le Bœuf sur le Toit. C'est du côté de Annecy, je crois, comme ça.
D'accord.
On a des dates qui s'annoncent et tout ça. Ça se rajoute petit à petit. Après, je t'avoue que moi, on s'est pas trop occupé, en fait, de toute cette partie date, tour management et tout ça. On est un peu livré à nous-mêmes, on fait tout avec les moyens du bord. Et c'est vrai qu'aller chercher des dates à droite, à gauche, c'est pas trop le travail de la maison. Ouais. On est en lien avec des tourneurs et tout ça. Et c'est vrai que bon, la vie faisant, on n'a pas forcément eu le temps de finaliser les choses. Et surtout, moi, avec le taf que j'ai eu à la Casa et tout ça, c'était assez complexe. J'ai travaillé sur un autre projet. On est en train de travailler sur un autre projet. Mmh. Avec le temps que je peux avoir, parce que j'ai une vie de famille, Donc c'est pas évident. Mais on va essayer d'y arriver très rapidement. Et là, on était en train d'en parler là maintenant. Tu vois, j'étais en train de manger là tout à l'heure. On en discutait de voir comment est-ce qu'on allait organiser ça cette année, parce qu'il va falloir vraiment qu'on mette les bouchées doubles. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va passer les vacances en studio.
D'accord, voilà. Bon, bah, j'ai hâte de voir, ouais, de voir ça.
Ça
alors.
Va être cool, ça va être cool.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Vous. On est merci toujours au parc de Valmy pour les déferlantes. Venez nous rejoindre sur les studios.
J'suis comme un négro après la pro. Dans la panade, faut que j'casse la malade. Pas de patch, go, j'fais la part des choses, bro. Même si manque de panache dans leur panade faute. Mec, à qui la faute? Si on a les gros, quand on pique les gros, t'étais pas là. C'est un hold up, sans colte ni calage. Sans décalage sur le lit, tous les lits doivent se caravant. Jamais dans les panaches, passe mon temps à gratter le chrome. Calmé à l'arrache, préfère trop dégratter le chrome. Bro, j'avoue ça peut te paraître drôle, mais ma mère gronde encore qu'il y a un petit sas sombre dans l'alcool et strong. J'parle avec Vlad et Strong, je laisse squatter le trône. T'es bloqué mec, mais croque ou méga t'es gros. Trop de gosses veulent me tester avant d'être trop. J'ai tout l'or en fond, un manche qui veut nager le crawl. Tu veux partager le rôle, hey. Je te laisse pas faire une fille sans la poule. Que t'es un peu pas un pro. Usi dans la mallette, j'rôde. Visé tire dans la tête quand les idées me parlent, on parle faux. J'bosse à bas salaire, c'est une sale époque. Fusil à l'épaule, si on parle les potes, quand on crie de gros, t'étais pas là. J'pète les portes, sans constat, les palettes. Sans mes carrés pour le hit, j'ressens quand ça s'arrête. J'rôde, c'est vite la caresse, dosée comme la première phrase. Rajoute un R, A, G, A, V, les choses deviennent graves. Oh, j'vois pas où est grave. Comme on a pas l'air d'un pote, j'ai tiré à combien ce bon est grave. Avec Valais Hard, tous en casier drague. T'as cliqué bras, cliqué où mes gaziers de braque. Trop lourd à la prise et j'peux pas rater le cash. Mais d'enraille le parquet avant que le plancher craque. Tu veux qu'on teste tes grades, hey, j'te ouais, laisse pas place même si ça rapporte le jour. On peut pas laisser le crâne. Vous savez, c'est écrit là, je suis Hassan. Et ce soir, je suis hyper heureux d'être là parmi vous.
C'était Hassan Monkey sur Tekkit Radio. Désolé pour ces petits désagréments techniques. Et pendant ce temps, Eddy de Préto est en train d'enflammer la foule du parc de Valmy pour ses déferlantes sud de France. Eddy de Préto qu'on est allé voir en conférence de presse. Mais d'abord, on va vous passer un petit peu de Bags. Bags, c'est un groupe de rap qui est passé sur la scène Nouvelle Vague cet après-midi. On s'écoute tout de suite l'interview de Bags. De retour au parc de Valmy pour les déferlantes sud de France. Il fait un peu moins chaud. Alors moi, c'est mon truc, j'aime bien dire qu'il fait chaud ou pas. Il fait un peu moins chaud parce que les nuages sont arrivés, le soleil est un peu tombé. Je suis avec Martin.
Salut.
De Bags, bonjour, merci beaucoup d'accepter cette interview
merci
pour Take It Radio. Ça s'est bien passé ?
Ouais, je confirme. D'ailleurs, au niveau du point météo, il fait carrément moins chaud parce qu'à 16h30, quand on était sur scène, on a bien dégouliné. Donc ça s'est super bien passé, mais il faisait chaud.
En tout cas, je te laisse avec Thibaut qui va assurer ton interview. Merci encore d'avoir accepté cet entretien.
Pas de soucis.
Et on se retrouve juste après sur Take It Radio.
Et salut à tous, salut Martin, nous sommes sur Take It. Pouvez-vous me décrire votre groupe, s'il vous plaît ?
Alors, ouais, si, tu peux me tutoyer après, d'accord, si tu veux. Ça sera, moi, ça me mettra plus à l'aise. Le groupe, c'est moi qui écris des textes à la base. Et je me suis entouré de trois potes musiciens. Un bassiste, clarinettiste, claviériste, un mec qui est aux machines et au clavier et un scratcher.
D'accord. Et depuis combien de temps fais-tu de la musique ?
Depuis très longtemps. J'ai 28 ans, je fais de la musique depuis que j'ai 4 ans. Donc vraiment longtemps. Mais ce projet-là, par contre, il a 4 ou 5 ans. C'est un truc assez récent.
D'accord. Et BAT, c'est un groupe de rap, mais... pas que, on a entendu tout à l'heure du chant pendant votre passage sur scène. C'est quoi vos influences ?
Il y en a beaucoup parce qu'en fait, tous les quatre, on vient de milieux différents. Et en fait, on se complète très bien au niveau des influences. On apporte plein de trucs, chacun de notre côté. Il y a beaucoup, beaucoup d'influences. Ça va vraiment de la pop, de l'électro hyper bien produite au gros métal qui tâche, en passant par... les bases hip-hop évidemment, il y a beaucoup beaucoup de choses et du coup on essaye de garder ça dans la musique, de garder ce mélange justement.
Ouais, d'accord. Et tout à l'heure tu me parlais que tu faisais des textes, et de quoi parlent tes textes ?
Oula. Moi j'aime bien dire que le rap que je fais c'est de la peinture sur soi, c'est-à-dire que je en fonction du moment, en fonction des gens qui m'entourent, de ce que je vis, j'essaye de d'écrire le plus à nu possible en mettant les tripes et le cœur sur le papier et puis après... C'est quand même relativement, on va dire globalement, des textes qui parlent du monde qui m'entoure, donc il y a une espèce de conscience un peu sombre et un peu, mais pas pessimiste, mais un peu sombre du monde qui entoure et un peu lucide. Enfin, j'essaye au maximum en tout cas.
D'accord. Et peux-tu me raconter comment a commencé ta carrière musicale ?
Eh bien, la carrière musicale, comme je te disais, elle a commencé très très tôt. À 4 ans, j'ai commencé à faire de la musique et je suis batteur dans plusieurs projets sur Montpellier.
D'accord.
Donc je fais pas mal de choses à côté en fait. Mais pour Bags, pour ce projet-là, ça a commencé il y a 4-5 ans. Et petit à petit, on fait notre petit bout de chemin. Mais c'est pas on a tous beaucoup de projets à côté. Donc la carrière musicale, elle est très... très éclaté, très divers.
D'accord. Et est-ce que tu as des choses prévues en ce moment, des dates, des enregistrements, etc.
Là, on a filmé le concert au Déferlante parce que on a filmé 2-3 morceaux parce que c'était une grosse date pour nous, donc on en a profité. Donc il va y avoir les vidéos qui vont sortir. Après ça, à partir de la rentrée, on commence l'écriture d'un album qui va vouloir assez ambitieux. Donc ça va nous prendre un bon bout de temps. Et puis sinon, les ambitions, ça sera de la scène. En attendant, du coup, de faire le maximum de concerts, en attendant que cet album sorte.
D'accord. Et comment t'as vécu de jouer au Déferlante ce soir ?
Très bien. C'était très cool. Il y avait, comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où tu montes sur une belle scène comme ça, t'oublies tout en 5 minutes. Donc c'était super chouette. Puis on a vu que les gens arrivaient petit à petit et commençaient à écouter. Donc on a eu un public réceptif. C'était très cool. Mais il faisait très chaud et on s'en est tous rendu compte juste en sortant de scène parce qu'on dégoulinait et que voilà. Donc c'était le seul truc. Effectivement, les nuages ils font du bien, mais c'était un chouette moment pour nous, ouais, vraiment.
D'accord. Vous connaissez notre musicien du programme de ce soir ?
Ouais, carrément. Moi j'étais super content d'être programmé le même jour que Prophets of Rage parce que je suis un immense fan de Rage Against the Machine. Tu parlais des influences tout à l'heure, c'est un des groupes qui me porte le plus. Il y a The Prodigy que j'ai jamais vu et que j'ai vraiment envie de voir aussi. Oral San pour la curiosité aussi. Enfin voilà, ouais, je suis et je reste en plus demain pour Massive Attack, donc ouais, carrément.
Ok. Et une dernière question, pourquoi le nom Badge ?
Alors Bags. Bags. Alors à la base, c'est Baghertz. Pourquoi ce nom ? C'est un peu pourri. À chaque fois qu'on me pose la question, j'ai un peu honte. Mais c'est parce que on avait un groupe avec le bassiste que vous avez vu sur scène là tout à l'heure. Et en fait, c'était un groupe de rock. On voulait se créer des personnages un peu bizarres chacun. Et moi, j'étais batteur, donc. Et vous voulez trouver un truc avec baguette. Alors j'étais là, ouais, baguette et hertz pour l'onde de puissance, quoi, pour le symbole de fin, pour l'onde hertzienne. Et donc ça a fait baguette et finalement contracté en bags avec le H majuscule et le Z minuscule de hertz. Voilà. Donc ça vient de baguette. pour la batterie, quoi.
Ok, d'accord, merci. Merci Martin d'être venu.
Quand l'alcool manque, dur de s'affirmer, s'amuser de la bêtise, appréhender la pensée constructive, pas la tête à ça, non, trop compliqué, envie passive et l'amour, je refuse de croire qu'il s'achète, je protège celui que je porte à la musique de leurs étiquettes, classant la nature et le vivant, l'homme oublie ses alentours, se complaît dans les parjures des tarés, parés des plus grossiers atours, à force de croire tout voir, on est témoin que rien ne se passe et on se tracasse, cela sent même de ce qui nous agace, plus loin c'est la peur de l'inconnu qui glace le sang, mais qu'on se le réchauffe ensemble pour mieux supporter l'air. Car l'époque fout le vertige et tout s'étire trop vite et haut. Grand public falsifié par effets spéciaux. Trop de vidéos, demain on servira les machines qui nous donnaient l'heure hier et desquelles on peut débrancher ses neurones. Aujourd'hui les cicatrices de ce monde se referment sur nos palettes, veulent lisser en HD tout ce qui ne leur paraît pas net. Coloristes en fronde, on rend le flou esthétique, extatique dans les actes du fond de nos crânes. La beauté comme tactique, alors merde, lâchons les armes, c'est archaïque. Qu'elles soient verbales, physiques, paraîtrait qu'on fabrique le monde qui nous entoure. Alors de leurs discours uniques, construisons les antithèses. Teaser, fumer, baiser, ouais, ça va, triste synthèse. Je préfère miser sur les valeurs qui font qu'un chacun est unique. Et toutes ces couleurs, ouvrant sur autant d'horizons, observons le beau, puis sans inhibition, tous au pinceau colorions. Car l'arbre des envies est immense et on s'agrippe aux tranches d'ennui. Car l'arbre des envies est immense et on s'agrippe aux branches d'ennui. Donner vie au meilleur malgré les pires avides. Car au bon d'elle placé en haut de nos pyramides, on colorie.
Merci.
De retour sur Kiki. J'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours en compagnie de Rulio, famille, qui est là.
Et oui, c'est moi.
Toujours présent sur Tekkit. Alors, tu peux nous dire quelle interview nous allons avoir tout à l'heure?
Eh bien, on va suivre avec une interview qu'on a effectuée hier et le temps de la montée, ben, on la passe aujourd'hui. C'était la conférence de presse de Massilia Sound System qui sont passés hier à 1h ou minuit et demi, je crois, minuit et demi, sur la scène mère des Déferlantes Sud de France.
C'est très bien accueilli, voilà, c'est bien.
T'as tous les arbres sensibles.
Vous êtes content, je suis content.
On est content.
La merde.
Impeccable.
Je voulais savoir tout d'abord, est-ce que vous chantez en occitan pour la formation du groupe? Et si c'était justement est-ce que vous chantez en occitan si c'est militant, juste pour l'esthétique, ou bien les deux?
C'est artistique, non, c'est une langue, c'est une de nos deux langues dont on utilise bêtement. Pas plus de sens que. Pour moi, c'est pareil, c'est naturel. Alors, après, évidemment, il y a un truc qui paraît militant parce qu'il y a une langue qui est une langue d'État soutenue, tout ce que tu veux, puis il y a une langue minorisée. Donc, effectivement, quand tu chantes dans l'outsider, on va dire, tu as l'air militant. Mais moi, je pense que c'est un truc naturel. Tu as deux langues, tu les utilises, voilà.
J'avais juste une question, comment expliquez-vous, dans un monde de plus en plus commercial, comment expliquez-vous que vous soyez, j'allais dire, durable, inusable? C'est par le côté vrai, ou peut-être la culture du pastaga?
Non, dès le début, on a été obligé de se structurer. Quand ils sont arrivés en 84, 86, là, avec leurs deux platines et leurs micros, ils ont été pris pour des extraterrestres. Donc immédiatement, pour vivre, exister, il a fallu que Massilia crée un label, crée un studio, se mette à apprendre le métier du booking pour faire des concerts, etc. Et on a toujours eu ce rapport au métier. Hein. On n'aime pas trop ce mot parce que nous, on n'a pas trop l'impression de travailler. Il y a du labeur, tout ça, mais c'est... Voilà, bref, on s'est structuré et ça nous a fait traverser les années, je pense. Ça nous a permis de ne pas se compromettre avec...
Justement, pour revenir sur ce que vous disiez, surtout qu'on a des choses à dire pour les chanteurs sur scène. Maintenant, au bout de ces 30 années, quelles sont les chansons que chante encore Massilia sur scène, mais pour lesquelles finalement le combat il est gagné, entre guillemets?
J'ai l'exemple, l'exemple exactement contraire de ce que tu dis. Papé Djali a écrit une chanson en 86, c'est la première fois que le Front National fait un gros score aux européennes, ma ville tremble. Il le chante toujours 30 ans après. Donc on s'est beaucoup attaché à construire ce truc qui est derrière, c'est-à-dire pas simplement faire la bande son du film, être acteur dans le film. Donc là, il y a des avancées. On va dire il y a des avancées au niveau individuel de chacun. Par exemple, la fatalité qui existait pour les Marseillais de dire putain, mais je suis pas au bon endroit, il faudrait que je sois à Paris, que je sois à New York, enfin, partout sauf finalement là où tu es, quoi. Ça, je pense qu'individuellement, on l'a secoué un peu, ce cocotier. On a secoué un peu le mépris. Donc, ça, il y a eu une avancée. Mais après, structurellement, dans les trucs qui nous font caguer, on va dire, non, il n'y a pas eu d'avancée. On va même dire que par moment, il y a même un peu de reculade.
Alors, moi, j'aurais encore une question. Je voulais savoir comment vous trouvez que votre musique a évolué, du coup, depuis 1984.
Elle a surtout évolué par les gens qui ont intégré le groupe. Mmh. Quand on a commencé la musique, on a commencé par faire des chansons sur des faces B de trucs jamaïcains. Donc après, deuxième étape, lui il s'est mis à faire des vrais instrus pour Massilia. Avec un mec qui envoyait les instrus. Après, il y a un DJ qui est arrivé, il y a un mec au clavier qui est arrivé, il y a un guitariste qui est arrivé, tu vois. Donc maintenant il y a trois musiciens qui sont assez talentueux, qui ont emmené leurs pattes et tout ça. Et qui ont amené une petite spécificité au son de Massilia, notre manière d'arranger les chansons, etc. On a toujours une base très... Tu sais, pour nous, le reggae, c'est un peu comme le jazz, c'est des standards qui viennent du mento, du calypso, tout ça. Et ça, c'est une musique d'érudit, un peu. Et chaque fois qu'on refait de la musique, on repart des standards jamaïcains, qu'on détourne, qu'on inverse, qu'on machin. Mais on part toujours de cette base existante, tu sais, qu'on décline à l'infini. C'est la beauté de cette musique, c'est-à-dire... Et c'est pour ça que... En Jamaïque, une grand-mère et un minot de 17 ans, c'est pas des extraterrestres. La grand-mère, elle écoutait le mento, le minot, il est dans du raga hardcore, mais qui a les bases aussi de cette époque mento, tout ça. Donc, ils ont les codes, tu vois ce que je veux dire. Donc, on a toujours cette approche-là, quoi. On revient toujours vers cette base-là. Après, on s'est écarté, évidemment, du reggae, de ce truc-là.
On vieillit, on grandit, donc on écoute des musiques, on s'en sert, on évolue.
Vous ne pensez pas changer le monde, mais à votre hauteur, je pense que vous avez essayé de l'améliorer un peu, et en tout cas apporter un petit peu d'espoir pour une jeune génération, notamment tous les artistes de Marseille ou de cette génération qui se sentait peut-être un peu paumée, un peu oubliée, marginalisée. Est-ce qu'à ce niveau-là, voilà, vous avez dû créer votre label pour pouvoir vivre de votre art et à votre façon? Est-ce qu'à ce niveau-là, voilà, à Marseille, il y a des choses qui se font? Est-ce que ça s'améliore, cette situation?
Il y a ces états tout. Peut-être grâce à ce modèle où dire aux gens on n'est pas obligé d'aller à Paris pour réussir, effectivement, il y a des amis bretons, des groupes à Strasbourg, des mecs qui sont revendiqués de ce truc-là et de dire voilà, on n'habite pas autour du cul du monde, j'habite à Lens, mais je peux créer quelque chose qui existera à Lens parce que c'est là que j'ai envie de mener mon action. Nous, on a cette phrase d'un philosophe qui s'appelle Félix Castan, occitan, qui dit on n'est pas le produit d'un sol, on est le produit de l'action que l'on y mène. Tu as besoin d'être né quelque part, mais va à un endroit et fais-en la plus belle ville du monde et tu arriveras. Il n'y a pas de souci, on ne peut pas tous réussir à travers un exemple ou un truc cadré.
On est bon, Ayoli, hein. Bonne soirée.
Et oui, nous sommes toujours dans la Pinède, le village des déferlantes sud de France, au parc de Valmy. C'était Massilia Sound System qui était en conférence de presse hier.
Tout à fait.
Et donc on a passé aujourd'hui le temps de le monter. Par contre, il y a autre chose qu'on a eu le temps de monter aujourd'hui.
Conférence de presse.
Grâce à notre soutien technique, Leslie par exemple, qui arrive. Leslie, viens nous parler. Viens nous parler un petit moment. Leslie, tu as monté aujourd'hui les conférences
magique.
De presse. Ça t'a plu?
Génial, j'ai adoré. C'était vraiment une super expérience. Merci Massilia et vive la Yoli.
On va écouter tout de suite la conférence de presse d'Eddie Depréto qui est justement en train d'enflammer le parc de Valmy tout de suite sur Take It.
Eddie, bienvenue pour cette deuxième édition des Déferlantes. Votre premier album Cure, donc sorti en mars dernier, vous êtes déjà disque de platine et tu annonces la tournée des Zénith. Donc premier album, première tournée, première fois Déferlante, comment tu te sens?
Ça va, écoute, je connaissais pas les Déferlantes, donc je suis très content. J'ai pas trop vu grand chose encore là, mais je vais aller voir tout à l'heure. Je crois qu'on m'a dit que la scène était folle, donc voilà.
Où puisiez-vous votre inspiration de vos textes?
J'ai envie de raconter ce que tous mes ressentis, tous mes questionnements, toutes les choses qui suscitent en moi des brûlures, des choses un peu qui sont profondes, comme ça j'ai envie de les sortir, de mettre mes tripes sur la table. Donc je pense que c'est ça, c'est des expériences, des témoignages de ce que je vis dans les fêtes, dans la vie tout simplement. Et voilà, c'est juste ça, j'aime raconter le plus précisément l'infiniment petit de tout ce que je ressens. Et j'essaie d'être le plus précis dans ce que j'ai envie de raconter dedans.
Alors, je voulais savoir pour votre premier album, Cure, du coup, si c'était plus la continuité de votre premier opus ou plus un grand tournant pour votre carrière.
Cure ?
Oui.
Ah, c'est un premier coucou, j'espère qu'il y en aura des millions d'autres, enfin des centaines d'autres. Je pensais pas qu'il serait reçu de cette manière, je suis ravi, plus que ravi, très content. Mais j'espère et je suis sûr qu'il y en aura plein d'autres derrière. Voilà, donc c'est l'ouverture à quelque chose peut-être.
Je voudrais savoir ce qui vous rend heureux dans la vie en trois mots.
Ce qui me rend heureux dans la vie, je dirais la scène, le sexe et la fête.
Moi j'avais une petite question, donc là on est en période de festival, t'as beaucoup joué dans les salles avant. Je voulais savoir si tu te prépares de la même manière pour jouer en festival ou pour jouer en tant que concert classique.
Oui, j'ai toujours un rituel automatique que je fais tout le temps, c'est-à-dire... le fait de s'habiller, moi, me fait rentrer dans quelque chose de très focalisé, très concentré. J'ai l'impression d'avoir ma tenue de scène qui est simple, mais qui, le fait de la mettre, m'installe dans quelque chose de plus étoffé, de plus grand. Je m'échauffe la voix aussi, donc c'est ces rituels qui ne changent pas. Après, pour les festivals, il y a quelque chose d'un peu supplémentaire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne connaissent pas forcément le projet ou qui s'en foutent ou même qui n'aiment pas et qui passent et tu les sens et il faut attraper, même s'ils sont dissipés, même s'ils sont en train de penser à quelle bière ils vont aller choisir, dans quelle buvette, il faut les choper justement et leur dire « Eh oh, je suis là et j'ai envie de vous raconter des choses ». Donc il y a cet aspect un peu plus... conquête encore plus forte qu'on a dans les salles où les gens sont venus et ont acheté leur billet pour nous voir, enfin pour me voir. Donc du coup, je pense que ouais, c'est la seule différence, c'est qu'il faut encore mettre un plus gros costume de sur-soi, de monstre de soi, je pense.
Justement, à propos du costume, comment on arrive un petit peu à occuper ces scènes qui sont, vous allez voir peut-être tout à l'heure, assez gigantesques et qui sont prévues aussi bien pour des très grands groupes que pour des artistes qui viennent comme vous performer voilà, donc c'est pas, l'espace est un peu différent, comment on arrive à apprivoiser un petit peu cet environnement?
Bah, déjà il y a la technique que t'as gagnée quand j'ai fait tous mes cours de théâtre, la projection sur scène, l'équilibre plateau, prendre l'espace et tout, et en fait automatiquement moi j'ai un truc qui me fait que plus les salles sont grandes, plus j'ai l'impression de grandir et plus consciemment et inconsciemment aussi j'ai l'impression de devenir assez suffisamment monstre pour tenter d'occuper et d'attraper un peu tous les gens. Mais après évidemment c'est la technique de base et ensuite aller les chercher, donc il y a les déplacements, enfin c'est tout basique, mais les déplacements et puis une certaine, il faut pas rentrer avec une certaine modestie ou une timidité, il faut y aller avec une certaine assurance totale et sentir que c'est toi qui vas plutôt manger les gens que eux te mangent, justement, surtout sur les grandes salles. Salut.
Je veux dire, on s'est vu à Liège.
Oui.
Et hier, tu étais aux Européennes. En fait, je veux savoir, est-ce que tu t'es préparé à toutes ces tournées ou bien c'est assez nouveau pour toi de faire plusieurs
Non, il n'y a pas de formation à ça. On ne nous apprend pas à chanter tous les soirs pendant 5-6 dates partout. Donc, non, je suis en train d'apprendre ça. C'est une certaine rigueur. C'est cool. J'apprends justement à avoir ce dynamisme-là, de chanter tous les soirs, voir si ma voix... t'apprends où sont les limites de ta voix aussi, comment tu peux la gérer, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire la veille, qu'est-ce qu'il faut faire attention à... Et donc je suis très soucieux de ça et j'ai très peur de perdre ma voix, donc du coup j'y vais un peu à tâtons. Et ben voilà, j'y vais à tâtons.
Tu disais tout à l'heure vouloir montrer l'infiniment petit et aussi poser tes tripes sur la table, et on le voit souvent même dans l'esthétique de ton art, de ton album, tu montres souvent des zooms, tu es sur la vérité, sur un peu les entrailles de l'humanité. Est-ce que déjà tu arrives à rester optimiste après aller dans les entrailles de l'humanité, et surtout pourquoi cette volonté d'être totalement cash et de dire les choses comme elles le sont autour de toi, comme tu les vois sans filtre, finalement, et d'une manière peut-être un peu crue, quoi.
Parce que je crois simplement que je crois avoir cette personnalité-là, aimer aller déjà vivre de base les choses totalement, sans demi-mesure. J'ai jamais trop eu ce sentiment de se préserver. Moi, quand je vivais les choses, par exemple, comme la fête, j'aimais aller jusqu'au bout de la fête et voir où sont les limites de la fête. Et dans les limites, dans les travers, tu vois justement toutes ces, bah, justement, les limites de soi. Tu te rends compte dans ta tête que toutes les questions que ça peut susciter, d'être justement dans le bout de quelque chose, dans le je n'en peux plus de quelque chose. Et je pense que c'est là où je vais piocher un peu les fonds de mes pensées, les fonds de mes réflexions sur ce que je suis et comment je vis avec les autres. Ensuite, parler de manière crue, directe, je pense que c'est ma manière de m'exprimer aujourd'hui. Vu que j'aime être précis, j'aime que ça claque, il y a pas mal de jeux de mots aussi en français qui vont dans la consonance, dans la sonorité de chaque voyelle et de chaque syllabe, qui vont claquer et qui vont permettre d'être le plus précis, le plus juste à mon sens sur ce que je veux dire. Et je pense que ça m'aide, cette façon de parler là. Et il y a quelque chose aussi quelque chose d'un peu énervé de dire les choses comme ça, avec tellement de volonté de les dire et de se faire comprendre, que justement ça vient à des mots de plus en plus précis, de plus en plus violents même parfois.
Tu abordes des sujets un peu tabous dans la société comme l'homosexualité, les relations hommes-femmes, la relation avec les autres.
Moi, c'est pas tabou, l'homosexualité, chez
moi. Oui, non, c'est pas tabou, mais encore dans la régénération, c'est un peu... Du coup, comment tu vis d'être un peu le symbole et le modèle d'une nouvelle génération plus ouverte ?
Je vis pas du tout je le vis pas, ça. Non, je le vis pas. Je le sens pas et je veux pas le sentir et je l'éloigne de moi, mais ça me mettrait beaucoup trop de pression et beaucoup trop de... Non, j'essaie de rester le plus distant vis-à-vis de ça et de me dire que j'ai envie de continuer de raconter, voilà, comme je disais tout à l'heure, l'infiniment petit, l'infiniment précis de ce qui m'arrive, de ce que je vis, de comment je le vis. Mais l'icône, tout ce que ça peut créer, l'idolâtrie, le fanatisme, j'essaie de l'écarter le plus de moi, parce que ça, je pense que c'est des choses qui peuvent fragiliser énormément.
Je voudrais savoir comment, psychologiquement, on passe d'une personne lambda à une personne connue, comment ça se passe psychologiquement dans votre tête. Parce qu'une personne lambda est devant après 20 000 personnes et sur les plateaux de télé, comment...
C'est quelque chose que tu fantasmes beaucoup déjà, donc je pense que tu as une préparation psychologique depuis petit. Moi, je rêve d'être vu et d'être entendu par tout le monde. Donc je pense que ton psychique, il est là en mode « Ok, tu veux le faire, tu vas le faire et tu vas y arriver. » Donc une fois que tu y es, c'est comme... une libération limite, t'as tellement envie de ça et tellement t'y es et tellement t'es là, ça te fait énormément plaisir, donc je le vis plutôt bien, je crois.
Ça vous atteint pas?
Non, matin
vous atteindre, c'est-à-dire...
Si, émotionnellement, forcément, émotionnellement aussi, parce que c'est des pics, parce que se retrouver devant des grandes scènes avec 20 000 personnes qui crient ou qui t'appellent et qui chantent tes phrases que t'as écrites dans ta chambre, c'est... Tu te dis, putain, waouh, c'est ouf, et il faut un temps pour redescendre, c'est un peu comme la drogue, il y a une montée, il y a une descente, et après, tu vis avec, tu vis le vide, et tu attends la prochaine.
D'accord. Merci en tout cas.
Merci beaucoup.
Merci.